Chapitre 4. L'Empereur. Cléon II. Communément appelé le Grand. Dernier empereur fort du Premier Empire, Cléon II doit son importance historique à la renaissance politique et artistique qui eut lieu durant son long règne. Mais il est surtout connu des amateurs de littérature romanesque en raison de ses rapports avec Belle-Rioz, et pour le commun des mortels, il est simplement l'empereur de Rioz. Les événements de la dernière année de son règne ne doivent pas rejeter dans l'ombre 40 ans de... Encyclopédia Galactica. Cléon II était le maître de l'univers. Cléon II souffrait en outre d'un mal douloureux, et que nul n'était parvenu à diagnostiquer. Par un étrange détour des affaires humaines, ces deux affirmations ne s'excluent pas mutuellement. Elles sont même, à vrai dire, loin d'être incompatibles. L'histoire nous l'a hélas plus qu'amplement prouvé. Mais Cléon II n'avait que faire de ses précédents historiques. Méditer sur une longue liste de cas analogues ne soulagerait pas d'un iota ses souffrances personnelles. Cela ne le consolait pas plus de penser que, bien que son arrière-grand-père eût été un pirate gouvernant une planète guère plus grosse qu'un astéroïde, il dormait quant à lui dans le palais des plaisirs d'Aménétique le Grand, héritier d'une lignée de potentats galactiques qui remontait à un passé se perdant dans la nuit des temps. Il ne tirait pas davantage de réconfort de songer que par de constants efforts son père avait éradiqué toute trace de rébellion au sein de l'Empire, auquel il avait restitué la paix et l'unité qu'il avait connue sous Stanel VI, si bien que, pendant les 25 années de son règne, aucun nuage de révolte n'en avait assombri la gloire. Ainsi donc, l'empereur de la galaxie, le maître de toutes choses, gémit d'impuissance et laissa mollement retomber sa tête dans ses oreillers. Le champ de force qui lui tenait lieu de matelas s'enfonça très doucement, sans qu'il eût à vrai dire l'impression de reposer sur quoi que ce fût. À ce contact, ou plus exactement à cette absence de contact, Cléon ressentit un délicieux picotement, et il se détendit quelque peu. Il se redressa péniblement et contempla d'un œil sombre les murailles de la salle gigantesque qui lui tenait lieu de chambre et qui se dressait là-bas, loin, très loin de son lit. Il ne faisait pas bon se retrouver seul dans une chambre pareille. Elle était trop grande. D'ailleurs, dans ce palais, toutes les chambres étaient trop grandes. Mais mieux valait encore rester seul durant ces crises qui le paralysaient que de subir le harcèlement des courtisans, leur compassion servile, leur condescendance mièvre. Mieux valait rester seul que voir ces masques insipides, derrière lesquels se déroulaient de tortueuses spéculations sur les probabilités de son trépas et les aléas de la succession. Ses pensées le tourmentaient. Il y avait ses trois fils, trois robustes garçons pleins de promesses et de vertus. Où disparaissaient-ils dans ces moments-là? Ils attendaient, sans nul doute. Chacun surveillait l'autre, et tous le surveillaient. Il s'agita nerveusement. Voilà que Brodrigue demandait audience. Brodrigue. De basse extraction, mais fidèle, lui. Oui. Fidèle parce qu'il était l'objet d'une haine cordiale et unanime, seul point sur lequel se rencontraient les douzaines de coteries qui divisaient la cour. Brodrigue, le fidèle favori, qui était bien obligé d'être fidèle, puisqu'à moins de posséder le spatiojet le plus rapide de la galaxie et d'y prendre place le jour du décès de l'empereur, il se retrouverait dès le lendemain dans la chambre d'atomisation. Cléon II effleura le bouton fixé sur le bras de son large divan, et la grande porte au fond de la chambre devint transparente. Brodrigue avança sur le tapis rouge et s'agenouilla pour baiser la main que l'empereur lui tendait mollement.
« Votre santé, sire ? »
demanda le secrétaire particulier d'un ton marqué d'une sollicitude de bon aloi.
« Je vis !»
répliqua l'empereur avec exaspération.
« Si l'on peut parler de vie, quand la première canaille capable de lire un livre de médecine m'utilise comme cobaye soumis et consentant pour ses déplorables expériences. S'il existe un remède chimique, physique ou atomique qu'on n'ait pas encore essayé, dès demain, des charlatans venus des confins du royaume arriveront pour l'expérimenter. Et on ne manquera pas de citer à l'appui n'importe quel livre de médecine exhumé depuis peu, ou fabriqué de toutes pièces, plus probablement. Par la mémoire de mon père,
grommela-t-il d'un ton féroce,
on dirait qu'il n'existe pas un seul bipède en ce bas monde qui puisse étudier une maladie en se fiant à ses seuls yeux. Il n'y en a pas un capable de vous prendre le pouls sans avoir devant lui quelque ouvrage des anciens. Je suis malade et ils appellent ça un mal non identifié. Les imbéciles!
Si au cours des âges le corps humain découvre de nouvelles façons de se détraquer, ce seront des maladies incurables, car les anciens ne les auront pas étudiées. L'empereur débita dans un souffle, qu'il avait fort court en l'occurrence, tout un chapelet de jurons, tandis que Brodrig le laissait parler avec déférence.
« Combien sont-ils là-dehors ?»
demanda Cléon II avec mauvaise humeur, tout en désignant de la tête la direction de la porte.
« Il y a la foule habituelle dans le grand vestibule, » répondit patiemment Brodrig.
« Eh bien qu'ils attendent. Les affaires de l'État me retiennent. »
Que le capitaine de la garde l'annonce. Ou bien non, attendez. Oublions les affaires de l'État. Faites simplement annoncer que je ne donne pas audience. Et dites bien au capitaine de la garde de prendre un air lugubre pour le leur annoncer. Les loups sortiront peut-être du bois en entendant cela.
Ricana l'empereur.
Le bruit court, sire, dit Brodrig d'un ton uni, que c'est votre cœur qui vous donne des ennuis.
C'est surtout à eux qu'il causera des ennuis,
répondit le roi sans presque se départir de son sourire narquois,
s'il leur prend la fantaisie d'agir prématurément en se fondant sur de telles rumeurs. Mais vous, qu'est-ce que vous me voulez? Parlez et finissons-en.
Sur un geste de l'empereur, Brodrig se releva et dit :
Il s'agit du général Belrioz,
le gouverneur militaire de Siouena.
Rioz,
s'étonna Cléon II en fronçant les sourcils.
Je ne vois pas qui c'est. Attendez. Est-ce lui qui a envoyé cet étrange message il y a quelques mois et qui voulait se lancer dans je ne sais quelle croisade insensée, oui. Je me souviens. Il suppliait qu'on l'autorise à devenir notre nouveau conquérant pour la gloire de l'Empire et de l'Empereur.
Exactement, sire.
L'empereur eut un rire bref.
Qui eût cru qu'il me restait encore des généraux comme ça, Brodrig? Quel curieux atavisme! Que lui a-t-on répondu? J'imagine que vous vous en êtes chargé.
En effet, sire.
Et il a eu la consigne d'envoyer un supplément d'information et de ne prendre aucune mesure impliquant une intervention de la flotte sans de nouveaux ordres de l'Empire.
C'est assez prudent. Qui est ce Rioz? A-t-il jamais été à la cour?
Brodrig acquiesça avec un rictus presque imperceptible.
Il a commencé sa carrière comme cadet dans la garde impériale il y a 10 ans. Il a été mêlé à cet incident qui a eu lieu dans le secteur de l'amas de l'Émule.
L'amas de l'Émule? Vous savez, ma mémoire n'est pas très... Était-ce la fois où un jeune soldat a sauvé 2 vaisseaux de ligne d'une collision frontale en faisant je ne sais plus quoi?
Il eut un geste d'impatience.
Je ne me souviens pas des détails, mais c'était quelque chose d'héroïque.
Ce soldat, c'était Rioz. Cela lui a valu de l'avancement, dit sèchement Brodrig, et un poste de commandant de vaisseau à bord d'un bâtiment opérationnel.
Et le voilà aujourd'hui gouverneur militaire d'un système frontalier. Si jeune. Voilà un homme compétent, Brodrig.
Mais il n'est pas sûr, sire. Il vit dans le passé. Il rêve des temps anciens, ou plutôt des mythes liés aux temps anciens. Des hommes comme lui sont inoffensifs par eux-mêmes, mais cet étrange manque de réalisme dont ils font preuve les rend dangereux pour autrui. Ces hommes, m'a-t-on dit, lui sont totalement soumis. Si l'un de vos généraux est encore populaire, sire, c'est bien lui.
Vraiment ?
Réagit l'empereur d'un ton songeur.
Ma foi, Brodrig, je ne peux tout de même pas m'entourer que d'incompétents. Lesquels, au demeurant, ne sont guère plus fidèles.
Un traître incompétent n'est pas dangereux. Ce sont plutôt les hommes compétents qu'il faut surveiller.
Et vous le premier, n'est-ce pas, Brodrig ?
Demanda Cléon en riant, avant qu'une grimace de douleur ne crispe son visage et le force au silence.
« Bon, oublions cela pour l'instant. Où en sont les choses à présent ? Que devient notre jeune conquérant ? J'espère que vous n'êtes pas venu simplement pour remâcher des souvenirs. »
« Sire, un nouveau message du général Rioz nous est parvenu. »«
Hein ? Et pour dire quoi ?»
Il est allé espionner le pays de ces barbares, et il préconise une expédition en force. Il s'explique là-dessus dans son message, mais c'est un peu long et passablement ennuyeux. Je ne veux pas importuner votre majesté impériale pour le moment dans son état. D'autant plus que le sujet sera abordé en détail lors de la session du Conseil des Seigneurs, ajouta-t-il en lançant à l'empereur un regard en coulisses.
Les seigneurs ?
S'étonna Cléon II en fronçant les sourcils.
« C'est donc une question qui les concerne, Brodrig ? Ils y verront prétexte à exiger une interprétation plus large de la charte. Ça se termine toujours comme ça. »«
C'est inévitable, sire. Il aurait peut-être mieux valu que votre auguste père eût été en mesure d'écraser la dernière rébellion sans octroyer la charte. Mais ce qui est fait, il nous faut faire avec pour l'instant. »
Vous avez raison, je pense. Alors va pour les seigneurs. Mais pourquoi toute cette solennité, mon cher ? Ça n'est après tout qu'un point secondaire. Remporter une victoire aux confins de l'Empire, avec des effectifs limités, ne saurait être considéré comme une affaire d'État.
Brodrig eut un demi-sourire et répliqua froidement. C'est l'affaire d'un idiot qui se pique de romanesque.
Mais c'est précisément ce genre d'individu qui peut devenir une arme redoutable si un rebelle qui, lui, n'a rien de romanesque, se met en tête de l'utiliser à ses fins.
Sire, ici l'homme était populaire. Là-bas, il l'est plus encore. Il est jeune. Qu'il parvienne seulement à annexer un ou deux mondes barbares et sans alliés, et il deviendra aux yeux de tous un conquérant. Or, un jeune conquérant qui a montré qu'il était capable d'éveiller l'enthousiasme des pilotes, des mineurs de fond, des marchands et autres racailles du même acabit, est dangereux, quelle que soit l'époque. Même s'il n'avait pas le désir de vous faire subir le sort que votre auguste père a réservé à Ricoeur l'usurpateur, un de nos loyaux seigneurs du domaine pourrait fort bien décider de faire de lui son instrument.
Cléon II eut un geste brusque du bras que la douleur immobilisa aussitôt. Il se détendit lentement, mais il souriait faiblement et sa voix n'était plus qu'un murmure.
« Vous m'êtes un conseiller précieux, Brodrig. » Vous soupçonnez toujours plus qu'il n'est nécessaire, et je n'ai qu'à prendre la moitié des précautions que vous suggérez pour ne courir aucun risque. Nous allons porter l'affaire devant les seigneurs. Nous verrons ce qu'ils diront, et nous prendrons nos mesures en conséquence. Je suppose que notre jeune général n'a pas encore engagé les hostilités.
Ces rapports n'en font pas mention. Mais il demande déjà des renforts.
des renforts !»
s'exclama l'empereur, avec sur le visage une expression sincère d'étonnement.
« De quelles forces dispose-t-il »
« 10 vaisseaux de ligne, sire, et les appareils auxiliaires qui vont avec, naturellement. 2 des vaisseaux sont équipés de moteurs récupérés sur d'anciens appareils de la grande flotte, et l'un d'eux a reçu une batterie d'artillerie atomique de même provenance. Les autres sont plus récents, ils datent des 50 dernières années,
mais ils sont quand même en état de servir.
Pour peu qu'on les utilise à bon escient, 10 vaisseaux me paraissent amplement suffisants pour mener à bien n'importe quelle mission. » Après tout, mon père en avait encore moins que ça lorsqu'il a remporté ses premières victoires contre l'usurpateur. Qui sont d'ailleurs ces barbares qu'il combat ?
Le secrétaire particulier haussa les sourcils d'un air dédaigneux.
Il les désigne sous le nom de la Fondation.
La Fondation ? Qu'est-ce donc ?
J'ai eu beau fouiller soigneusement les archives, je n'en ai pas trouvé trace, sire. La zone de la galaxie indiquée dépend de l'ancienne province d'Anacréon qui, depuis 2 siècles, a sombré dans le brigandage, la barbarie et l'anarchie. Mais il n'existe pas dans la province de planète connue sous le nom de Fondation. Il y a une vague allusion à un groupe de savants envoyés dans cette province juste avant sa séparation de notre protectorat. Ils étaient censés y aller pour rédiger une encyclopédie.
Il sourit discrètement.
Je crois qu'ils appelaient ça la Fondation de l'Encyclopédie.
Ma foi, dit l'empereur d'un ton sombre. Tout cela me paraît bien mince pour que vous vous avanciez ainsi.
Je ne m'avance pas, sire. On n'a plus jamais eu la moindre nouvelle de cette expédition après que la région a commencé à sombrer dans l'anarchie. S'ils ont encore des descendants qui portent le même nom qu'eux, alors ils sont sûrement retombés dans la barbarie.
Ainsi donc il veut des renforts.
L'empereur considéra d'un œil sévère son secrétaire.
C'est extrêmement curieux. Proposer de combattre des sauvages avec 10 vaisseaux ? Et en demander davantage avant d'avoir frappé un seul coup. Mais je me souviens de lui maintenant. Ça me revient tout à coup. Sir Hughes. Il est plutôt beau garçon si je ne me trompe. Oui. C'est bien lui. Et sa famille a toujours été loyale à l'Empire. Rodrigue. Il y a, dans tout cela, des complications qui m'échappent. C'est peut-être plus important qu'il n'y paraît.
Ses doigts jouaient avec le drap étincelant qui recouvrait ses jambes ankylosées.
Il me faut un homme sur place,
dit-il.
Un homme qui sache se servir de ses yeux, de son cerveau, et qui ait un cœur loyal. Rodrigue.
Le secrétaire pencha la tête d'un air soumis.
Et les vaisseaux, sire ?
Pas encore.
L'empereur poussa un petit gémissement en changeant avec 1000 précautions de position. Il braqua vers son secrétaire un doigt sans force.
Pas avant d'en savoir plus. Réunissez le conseil des seigneurs pour aujourd'hui. Ce sera une bonne occasion pour discuter le budget. Je le ferai passer, ou des têtes tomberont.
Il reposa sa tête endolorie contre le champ de force qui le soutenait et allégeait notablement ses souffrances.
Va, Rodrigue. Tu peux disposer. Et fais venir le médecin. C'est le pire de tous, celui-là.